Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 février 2021 que Dieu a fait, Baruch Hu Baruch Shemu, lendemain du Shabbat Kodesh, Parashat Truma. Et je voudrais revenir, grâce à l'enseignement de nos maîtres, sur un point qui me paraît nécessairement fondamental, parce que il découvre en fait le génie de Moïse. Moïse était un être de parole. C'était un être dont la mission principale était de transmettre la parole de Dieu, la Torah, à chacun des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Vous savez que Adam Harishon, avant la faute, dans ce fameux jour 1, il avait la capacité de réunir les contraires, de réunir son côté masculin et son côté féminin, de réunir l'extériorité de l'intérieur et l'intériorité. Moïse avait ce génie absolu de transmettre la Torah comme une loi, comme un élément en fait venu de l'extérieur. Transmettre un projet de valeur morale, un projet de justice, extérieur encore une fois, qui va dépasser, transcender la volonté des hommes. Mais d'une manière extrêmement fine, extrêmement profonde, parce que il doit transmettre ça avec une volonté de déclencher chez l'individu, chez l'homme, chez l'hébreu, eh bien cette lumière qui est en lui, qui va faire en sorte qu'il va se donner à la construction, si vous voulez, du temple, du Mikdash. Et cette force qui est en lui, qui est en chacun d'entre nous, est allumée par Moshe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà un homme qui reçoit de Moïse la loi, l'union des valeurs morales, loi de justice, mais qui va faire le lien entre cette loi venue de l'extérieur, de son extériorité, avec son intériorité. Et les maîtres des secrets disent que, en fait, le travail qui était demandé aux Hébreux, à la sortie d'Égypte, dans le désert, dans la construction du Mishkan, Parashat Truma, était un travail double. Il devait faire un travail, certes, extérieur, construire avec des matériaux, avec des éléments de matière, le tabernacle, construire, comme on dit en hébreu, le Mishkan, avec ses tentures, avec ses peintures, avec ses matériaux précieux, mais aussi travailler à l'intérieur de lui-même pour déclencher l'allumage de la révélation, si vous voulez, de cette lumière intérieure qui est en chacun d'entre nous, de manière à ce que le don soit un don gratuit. C'est pour cela que, juste avant Pourim, et la Parashat Truma se situe aux environs de Pourim, on donne le Maratzit HaShekel. C'est-à-dire que, en fait, ce demi-shekel, il s'agit de donner au temple ce qu'on a de plus précieux. Un demi-shekel, ça doit être donné avec le don gratuit, le don de soi, un don total. Mais pourquoi un demi-shekel? Parce que, en fait, nous sommes là toujours dans la faute d'Adam Harishon, la faute d'Adam et Ève. Le shekel a été coupé en deux parce que, tout simplement, cette faute a séparé le masculin du féminin, comme on le sait. Le serpent s'est introduit dans cet édifice et dans ses interstices. Et la faute du serpent a fait en sorte que cette pièce, entre guillemets, d'une manière symbolique, bien entendu, s'est coupée en deux. Et quand est-ce que le shekel sera plein? Il sera plein avec le Mashiach ben David, lorsque la réparation d'Adam Harishon sera définitivement accomplie de nos jours, Bezrat Hashem. Maintenant, ce tabernacle, si vous voulez, est divisé en trois parties. Vous avez vue verticale, vue d'en haut, et je me réfère au livre absolument nécessaire de M. David Saada, Le Point Intérieur, aux éditions Albin Michel, dont j'ai très souvent cité, à la page, aux pages 245. Et que dit David Saada en citant les maîtres des secrets? Il dit un point fondamental, c'est que vu d'une manière verticale, il y a d'abord trois niveaux. Vous avez le premier niveau qui est lié, n'est-ce pas, aux tentures. Les 10 tentures intérieures surmontées de 11 tentures extérieures. Cela est lié au chiffre 21. 10 plus 11, ça fait 21. Or, 21 est la gématria d'un nom divin extrêmement élevé qui s'appelle Yé, qui correspond, si vous voulez, au sommet de la, de l'édifice de la sphéra, de la séphirotique, du principe de ce qu'on appelle du Keter. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle les socles. Et les socles, dit le rav kabbaliste Rabbi Joseph Gikatila, dans son livre Sha'arei Ora, Zichrono Tzadik Lebracha, les portes de la lumière, eh bien, ces socles portent en elles ce qu'on appelle la malchut. C'est-à-dire, véritablement, vous avez le yéyé en haut, et le Keter en haut, et la Malchut en bas. La Malchut est liée au nom de Dieu Adoni. Adan signifie socle en hébreu. Et donc, dans la racine Adan, vous avez évidemment le nom de Dieu Adoni, c'est-à-dire la présence de Dieu dans notre monde, dans le principe de la malchoute. Et vous savez que la malchoute étant cette royauté qui va porter tout l'édifice du monde. Et entre le Keter, la Yé et la malchoute, vous avez à voir le mobilier, c'est-à-dire tout le mobilier saint, tout le mobilier sacré, qui sont, si vous voulez, reportés par le nom Yud-Ké-Vav-Ké. Le nom Yud-Ké-Vav-Ké, alors vous avez, si vous voulez, trois types d'attributs divins. Le premier, très élevé, Yé, lié aux tentures, par le chiffre 21, 11 et 10. Vous avez en bas Adoni, je ne dis pas vraiment le nom, et là, c'est lié directement à notre monde, au monde matériel, à tout notre environnement, il est présent partout, et entre les deux, vous avez le mobilier, notamment le candélabre, notamment la table de proposition, liée d'ailleurs, entre parenthèses, à toute l'économique, et vous allez avoir là-dedans le nom de Yud-Ké-Vav-Ké. Tout le travail des Hébreux, c'est de réunir ces trois noms. d'en faire, si vous voulez, de ces trois noms, le nom de Dieu. Maintenant, au niveau horizontal, le Mishkan est construit de la manière suivante, d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu. Il y a trois espaces. Il y a la cour, par laquelle on accède au sanctuaire. Dans la cour, il y a l'autel des sacrifices. Et ça, c'est lié, bien entendu, au nefesh, c'est-à-dire au côté animal de l'homme, qui est lié directement, si vous voulez, à ce côté animal de l'homme qui est lié directement à notre monde. Vous avez là ce qu'on appelle la première chambre, qui est la plus extérieure du sanctuaire, et qui s'appelle le Kodesh, le Saint. Elle contient le mobilier, le candélabre, par exemple, à 7 branches, et 2 pièces du mobilier, comme par exemple la table de proposition, avec les pains, n'est-ce pas, de proposition, qui était d'ailleurs du pain de Pessah, du pain azim. La chambre intérieure était la troisième surface géographique, vue du côté horizontal, était le Kodesh HaKodashim. Et là, c'est le Saint des Saints qui va accueillir l'Arche Sainte, où sont déposées les tables de pierre portant l'inscription des 10 paroles, très mal traduit par 10 commandements. C'est-à-dire que lorsque Moshe rentrait dans le Saint des Saints pour parler avec le Kadosh Baruch Hu, dans le Saint des Saints, il y avait évidemment les chérubins, ce petit garçon, ces petites filles, c'est-à-dire, en fin de compte, ce couple, qui réunissait les contraires, qui réunissait absolument les mondes, et entre ces couples, il y avait la présence divine. Alors, ce qui est très très intéressant de comprendre, c'est que chacun d'entre nous, sortant d'Égypte, possédons une infime partie du Mishkan. C'est pour ça qu'on a besoin de l'unité complète, totale, du peuple d'Israël sortant d'Égypte. Chacun, homme et femme, bien entendu, porte en soi une infinie partie du temple, du Mishkan. Et c'est le Kohen Gadol qui va réunir tout, notamment le jour du Yom Kippour, et qui va transformer l'impureté en pureté. Mais ce qui est très important de dire, c'est que, en fait, Moshe, lorsqu'il transmettait la Torah, eh bien, il allumait la partie lumière, entre guillemets, qui était en nous, de manière à nous faire atteindre ce niveau très élevé de don gratuit, sans aucune volonté de gain, sans aucune volonté d'ego. Et pour atteindre ce don gratuit, chacun devait allumer en lui, grâce à Moshe, et c'est ça le génie de Moshe, il devait allumer en lui cette partie du Mikdash, du tabernacle, même infime, qui était en lui. C'est pour ça que lorsque nos ennemis veulent détruire le maximum d'Hébreux, les forces d'Amalek, par exemple, veulent détruire les Hébreux, c'est tout simplement, ils veulent détruire, en fait, la capacité de renaissance, de reconstruction de la maison de Dieu sur terre. Les ennemis d'Israël veulent empêcher la royauté, la malchoute, de se révéler, et donc veulent empêcher l'union de l'universel avec son Dieu. Merci beaucoup.